Bonjour à tous. Donc ce matin, dans le cadre du cercle biblique, nous continuons notre étude du salut, mis en œuvre par notre Dieu, et nous aborderons spécifiquement ce matin la justification par la foi. Oui. Excusez-moi, nous aborderons la justification par la foi. Donc c'est notre troisième étude consacrée au thème du salut, et plus précisément à l'application du salut ou l'ordre du salut, hein, on peut parler des deux. Et nous aurons encore deux matinées pour explorer ce si grand salut. Alors, est-ce exagéré? C'est le petit 1, hein, pourquoi étudier le salut? Je ne crois pas, évidemment, sinon je ne serais pas là. Hein. Et je suis même persuadé du contraire. Le salut a été accompli par notre Dieu, et il nous dévoile son caractère de grâce, sa bonté incroyable, ainsi que sa justice. Il nous montre à voir qui il est dans son essence, ce en quoi il prend plaisir, c'est-à-dire faire grâce, pardonner. Et si Dieu est infini, essayer de creuser son salut peut nous prendre quelques études où en fait nous allons seulement en effleurer les richesses de ce salut, en espérant, et c'est le but, que cela approfondisse notre foi, lui donne un nouvel élan, nous pousse à plus d'adoration dans notre cœur et dans notre vie pratique. Regardez ce que dit Pierre dans sa première épître au sujet de ce salut. On va lire 1 Pierre 1, versets 8 à 12. Alors je lis en version Semeur. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous annonçaient la bonne nouvelle sous l'action du Saint-Esprit envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Donc on voit plusieurs choses qui nous sont dites là-dedans. On voit on voit qu'il s'obtient dès le début en plaçant sa confiance en Jésus-Christ. On voit qu'il est le but de notre foi. On voit qu'il est la recherche et l'investigation des prophètes. Mais en même temps, il est dit qu'il était pour nous, donc depuis la mort de Jésus-Christ. Cet esprit éternel a annoncé d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Donc on voit qu'il a été principalement accompli à la croix, par la mort de Jésus et sa résurrection. À nouveau, il est dit qu'il était pour nous, qu'il est communiqué sous l'onction du Saint-Esprit, et les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Donc c'est intéressant que ce salut qui émerveille les anges eux-mêmes, et les anges qui, eux, n'en sont pas bénéficiaires, ne se lassent pas de les découvrir. À combien plus forte raison, nous qui sommes les objets de sa grâce, les bénéficiaires de ce salut si merveilleux, nous devrions nous en délecter, nous en émerveiller à notre tour. La bonne nouvelle, l'évangile, ce n'est pas l'ABC de la vie chrétienne, la base, l'entrée de la vie chrétienne, c'est l'alpha et l'oméga de cette vie. En tout moment, nous devons revenir à l'évangile. C'est le carburant spirituel qui nous pousse à adorer Dieu, à lui exprimer notre reconnaissance. Et si on devait résumer les deux grandes œuvres de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait, les deux plus grandes œuvres de Dieu, ce serait la création et le salut, qui n'est autre qu'en fait que le rachat de la première création, le rachat et sa glorification, parce qu'elle sera encore plus glorieuse que la première création, qui avait été abîmée par le péché. Mais même avant, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et dans l'Apocalypse, alors ça va intéresser peut-être les gens qui sont à la louange là, dans l'Apocalypse, il y a deux passages dans la salle du trône où il y a une adoration de tous les êtres vivants. Et ces deux passages nous montrent les deux motifs d'adoration principaux. Alors, c'est Apocalypse 4, versets 9 à 11, ça concerne la création. Ils adorent Dieu le Père. « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Et puis le deuxième motif de création, quand l'agneau de louange, quand l'agneau apparaît, c'est la rédemption, le salut. Chapitre 5, versets 7 à 13. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui est siégé sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentaient les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. « Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Puis je vis, j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions et disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. » On voit à nouveau une gerbe d'adoration universelle qui s'élève due à l'œuvre de l'agneau qui siège sur le trône. Et le Dieu qui siège sur le trône a tout créé. Le Dieu et l'agneau qui siègent sur le trône ont racheté la création qu'ils avaient créée. Et ils l'ont fait avec puissance, ils sont sur le trône. Donc ça pousse à l'adoration. Apocalypse, alors 4 versets 9 à 11 pour la création et 5 versets 7 à 13 pour la rédemption. Et c'est les deux chapitres là qui parlent d'adoration de toute façon. Mais voilà, un petit peu les deux grands thèmes qui poussent à l'adoration. Alors, petit 2, rappel de l'ordre du salut. Hein. Alors, nous avons vu, alors je le résume brièvement hein, dans les samedis précédents, que Dieu, le Père, nous avait élus, que Jésus-Christ avait accompli le salut par sa mort et sa résurrection, et que le Saint-Esprit l'applique à notre vie. Et il y a un ordre du salut, des étapes qui sont résumées en Romains 8, verset 30. Donc c'est un petit peu ce verset, le verset lien de toutes ces matinées. Hein. Romains 8, verset 30. « Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. » C'est ce qu'on va faire ce matin. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Donc cela part de l'éternité passée, ceux qu'il a destinés, qui nous parle de l'élection, du choix de Dieu en notre faveur. En passant par son appel, il les a aussi appelés, hein, qui est un appel efficace. Dans la Bible, c'est vu comme un appel efficace, un peu comme une convocation ou une grâce irrésistible exercée par le Saint-Esprit, qui va régénérer nos cœurs de pierre pour les transformer en cœurs de chair. Ça, c'est la régénération, pour les circoncire, pour y graver la loi de Dieu, réorienter nos cœurs, faire de nous une nouvelle création. Une fois ce cœur réorienté par le Seigneur, transformé par le Saint-Esprit, nous allons de nous-mêmes nous convertir, c'est-à-dire nous repentir de notre indépendance pour nous confier en Jésus-Christ, c'est la foi. Et en réponse à cette foi, Dieu va nous déclarer juste. Alors, tout cela, l'appel, la régénération, la conversion, la justification par la foi, ça se fait instantanément au moment de la conversion, hein, où nous devenons chrétiens. Nous, on le détaille, là, exprès, on le segmente, mais ça se fait, voilà, hein, instantanément au moment où nous devenons chrétiens. La suite, ce sera notre marche avec Dieu, c'est-à-dire la sanctification, jusqu'à notre mort, et notre résurrection à son retour, c'est-à-dire notre glorification. Mais Romains 8, verset 30, de la glorification, elle en parle déjà au passé, comme si c'était fait. Tellement c'est une chose sûre dans le plan de Dieu. Ce qu'il a commencé en nous et pour nous, il le mènera jusqu'au bout. Donc, comme je disais ce matin, nous allons donc étudier tout particulièrement ce qu'il a déclaré juste, ou peut-être dans, selon les versions, il les a justifiés. Ça dépend de la version que vous avez. Et ce que les théologiens protestants appelaient la justification par la foi, ou la justification par la foi seule. Alors, je précise les théologiens protestants, car cette doctrine a été remise en valeur ou redécouverte par Luther en premier, en tout cas au grand jour. Il y avait eu des gens avant qui l'avaient remis, des pré-réformateurs, mais ça a été compliqué pour eux. Il n'y en a qu'un fini au bûcher. C'était pas le moment, en tout cas, où Dieu a permis que ça éclate au grand jour. Et donc, ça a été vraiment remis au bout du jour, au grand jour, par Luther, en premier, puis par les autres réformateurs ensuite. Par contre, Luther et les autres réformateurs ont redécouvert cette doctrine parce qu'ils ont redécouvert la Bible. C'est la Renaissance où on allait puiser dans les textes anciens. De ça, ça veut dire que, au-delà et avant d'être une doctrine chère à la Réforme et aux différentes dénominations protestantes, c'est une doctrine que l'on trouve dans la Bible et qui est particulièrement développée par l'apôtre Paul dans plusieurs de ses épîtres, et notamment et particulièrement dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates. Nous y reviendrons plus tard. C'est les deux épîtres, si vous voulez étudier dans la Bible où est développée cette doctrine, il faut aller voir dans Romains et dans Galates. Nous, ce matin, on ira plus voir dans Romains, mais les deux sont très riches à ce niveau-là. Hein. Alors, quelques définitions de cette justification par la foi, ou par la foi seule. Alors, Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, nous dit « La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient. » Premièrement, et deuxièmement, nous déclare juste à ses yeux. Donc, ce n'est pas quelque chose de progressif, ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire en nous, c'est une déclaration de justice. C'est un état légal devant Dieu. Henri Blocher, un théologien français, nous dit « La justification de l'Évangile est l'acte judiciaire de Dieu par lequel il déclare le pécheur en règle avec sa justice, quitte des peines qu'il méritait et reçu favorablement dans la présence divine » à cause du Christ en qui cet homme a mis sa foi. Donc ce n'est pas quelque chose de produit par nous-mêmes, c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et une dernière citation de John Stott, peut-être que j'en lirai une autre. La justification est un terme légal emprunté aux tribunaux, c'est l'opposé exact de condamnation. Condamner revient à déclarer quelqu'un coupable, justifier à le déclarer non coupable, innocent ou juste. Dans la Bible, il se rapporte à l'acte de faveur immérité par lequel Dieu déclare le pécheur juste devant lui, pas seulement en lui accordant le pardon ou en l'acquittant, mais en l'acceptant et en le traitant comme juste. Donc autant la régénération ou la sanctification est un travail de Dieu en nous, comme le chirurgien qui enlèverait une tumeur en nous, autant la justification est quelque chose de légal. Parce que si Dieu, si ça consistait à nous rendre justes, admettons, à un moment, la personne convertie devient juste complètement. Ça sera ça au retour de Jésus. Là, on est juste et pécheurs à la fois. Qu'en serait-il de nos péchés passés devant Dieu, à la fin, quand on se présenterait devant Dieu? Donc, c'est une déclaration légale qui nous justifie de nos péchés passés, présents et futurs. Et il ne faut pas confondre les deux, parce que si nous confondons les deux, on abordera plus la prochaine fois la sanctification, mais en gros, notre sanctification va se faire avec un arrière de plan, il faut que je sois approuvé par Dieu. Tandis que si la sanctification se fait avec la base de la justification dans le repos, cela est réglé et ça prend une autre démarche. Donc, je disais, ça traite de notre statut légal devant Dieu. Comment des êtres justes peuvent être en relation avec un Dieu parfaitement juste, saint? Qu'en est-il de la culpabilité de notre péché? Alors, dans la Bible, la culpabilité, c'est d'abord un état objectif devant Dieu, et non pas une notion psychologique. Ce n'est pas un ressenti ou un mal-être, comme c'est souvent le cas à notre époque. Alors, à notre époque, on entend souvent dire « il ne faut pas se sentir coupable ». C'est un peu très à la mode, ça. Mais la Bible ne nous engage pas à nous sentir ou à ne pas nous sentir coupable, mais à tenir compte de cet état de culpabilité devant le Dieu saint et à le régler avec Dieu. Et ceci étant réglé, il va avoir des conséquences psychologiques, évidemment. Hein. Alors, on le voit dans le psaume 32. Hein. Psaume 32, David est coupable, il le reconnaît. Et Dieu le pardonne, et la peine de son péché, le fardeau de son péché s'en va par la suite. Mais parce qu'il y a eu un règlement objectif avant. Et si la Bible a un diagnostic si intransigeant, sans échappatoire possible sur notre injustice, sur notre culpabilité devant Dieu, si elle est si insistante sur la dénonciation du péché, c'est qu'elle propose aussi un moyen infaillible d'en être sauvé. Elle nous propose la justification par la foi. Le prophète Isaïe, au chapitre 1, verset 18, dit la chose suivante. « Venez et plaidons. » Il y a une invitation à venir et on a un vocabulaire de tribunal. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il y a donc une invitation à venir, et non pas à cacher ses péchés, et à plaider avec l'Éternel, parce qu'il y a la promesse d'un pardon qui est assurée, évidemment. Par ailleurs, cette invitation est au présent. C'est maintenant qu'il faut régler le problème aujourd'hui. Et la Bible affirme avec certitude aussi qu'un jour nous ferons face au juste juge, celui à qui nous devons tout, et en tout premier lieu la vie. Et c'est pour ça qu'elle nous propose de le régler maintenant et de bénéficier dès le présent de cette justification, évidemment. Et Hébreux 9, 27 nous écrit « Le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. » Ou selon les versions, après quoi vient le jugement. Donc, je vous propose de regarder, ça c'est le numéro 3, comment cette doctrine de la justification par la foi, dont nous avons vu quelques définitions tout à l'heure, nous est présentée dans la Bible. Et pour cela, nous allons survoler l'épître de Paul aux Romains. Comme je vous disais, on aurait pu, les deux principales épîtres qui en parlent sont Galates et Romains. Là, j'ai choisi de plutôt survoler Romains. Alors, dans cette lettre, on ne va pas tout lire évidemment, hein, Paul écrit aux chrétiens de Rome, dont les églises sont composées de juifs et de non-juifs. Et on peut se rendre compte au fil de la lecture que ça apparaît fort au chapitre 14 et 15 qu'il y a des tensions, semble-t-il, entre ces deux composantes de l'Église. La manière d'aborder les aliments, certains pensent qu'ils peuvent manger de tout, d'autres qui doivent s'abstenir de certains aliments. Les jours, certains pensent qu'ils sont tous de même valeur, d'autres qu'il y a des jours de fêtes spéciaux à respecter. Et ces problèmes de différence, Paul ne va pas les aborder frontalement. Ou il ne va pas trancher en disant « voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire ». Mais pour ramener l'unité ou pour exhorter à l'unité, il va leur rappeler en quoi consiste l'Évangile. Et c'est dans ce contexte qu'il va développer sa plus grande explication de la justification par la foi. Les doctrines dans la Bible ne sont pas comme dans des livres de doctrine. Elles ont un côté pastoral, c'est-à-dire que les écrivains vont répondre à des problèmes précis et ils vont en profiter en montrant eh bien, la réponse, c'est, ça, c'est l'Évangile de Dieu, quoi, tout simplement. Donc on va lire quelques versets au début de l'Épître. On va lire le verset 5 et les versets 14 à 17. Verset 5, dont il vient de se présenter et il parle. Voilà, il dit par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom, il parle de Jésus-Christ, hein, pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Et puis au verset 14, je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je suis fier de l'Évangile. Certains ont, je n'ai pas honte. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Donc on voit que dès le début de son épître, des hommes de toutes les nations, cet évangile s'adresse à des hommes de toutes les nations, au verset 5. Et il y a un petit truc sur l'obéissance, là, très intéressant. Amener des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Donc, on voit que l'obéissance que Dieu demande, finalement, pour être en règle devant lui, c'est de croire en ce qu'a fait Jésus, quoi. Et donc, en gros, l'incrédulité est vue comme une désobéissance. Après, au verset 14, on voit des gens civilisés ou non, grecs ou barbares, instruits ou ignorants, alors, cela signifie en fait qu'il n'y a pas de classe sociale, de niveau d'instruction, d'intelligence ou d'autre qui nous permettrait de ne pas avoir besoin de l'Évangile. Hein. Et quelle tristesse de penser qu'on n'a pas besoin de ce que Dieu nous offre. Et quelle folie aussi, on le verra plus tard. Hein. Au verset 16, on continue, « Il sauve tous ceux qui croient, juifs ou non. » sont un peu les deux catégories qui composent l'Église de Rome et les deux catégories qui composent le monde biblique connu d'alors. Soit on était juif, soit on faisait partie des nations. Dans le monde romain de l'époque, voilà, on était un non-juif. Et cet évangile est puissant, il nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Au verset 17, on va le relire. Versets 16 et 17. « Car je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. » Donc c'était, voilà. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est écrit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Donc on voit que cette justice est accordée par Dieu. Ça veut dire qu'elle ne provient pas de nous-mêmes. Ok. Rien que par la foi. Et voilà, elle est comme extérieure à nous, elle est reçue. Et le juste vivra par la foi, c'est une citation d'Habacuc 2,4. Ça montre que même si cette justice par la foi apparaît au grand jour et est pleinement expliquée, prend toute son ampleur avec la venue de Jésus-Christ et son sacrifice, elle était déjà une composante de la piété des croyants de l'Ancien Testament. On ne pouvait être juste que par la foi. Et l'apôtre Paul va le démontrer au chapitre 4, on ne le verra pas trop, mais avec des exemples de David et d'Abraham. Hein. Et cette justice, le juste vivra par la foi, elle donne la vie, elle donne accès au Dieu saint, elle fait échapper à la mort. Et comme je disais, elle a toujours été le seul moyen de salut de l'Ancien Testament. Hein. Mais pourquoi, la question c'est pourquoi avons-nous besoin de recevoir cette justice que Dieu annonce par la foi? Ben, tout le reste de... Alors, le reste de ce... À partir de 1,18... Après Romains 1,17, de 1,18 à 3,20, l'apôtre Paul va nous montrer que tous, juifs et non-juifs, sont pécheurs, injustes aux yeux de Dieu, et donc ne peuvent produire une justice par eux-mêmes. On va relire une dernière fois Romains 1,17, parce que je vais faire une petite parenthèse sur Luther, comment il a découvert la justification par la foi. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il dit à l'Écriture, le juste vivra par la foi. Quand le moine Martin Luther, à l'époque de la Réforme, a découvert ce message, ce verset l'a littéralement transpercé et l'a libéré d'un fardeau de culpabilité incroyable. Luther était un moine extrêmement pieux, avec une grande conscience de son péché et une grande crainte de la justice de Dieu. Il avait pris sa condition de moine très au sérieux, par toutes sortes d'exercices spirituels, des jeûnes, des prières, tellement que même son supérieur lui disait « essayez de l'apaiser, essayez de le calmer », vous voyez qu'il était en train de se rendre malade, quoi, à force de jeûnes, de prières, de privations, pour essayer d'être juste devant Dieu. Il s'est plongé dans l'étude, il est même devenu docteur en théologie, et alors qu'il en faisait plus que tous ses autres compagnons au couvent, il se savait toujours pécheur devant le Dieu saint. Et c'est un peu en tremblant qu'il va s'atteler à l'étude de l'Épître aux Romains, parce qu'il sait qu'elle part de la justice de Dieu. Et ce qu'il va découvrir, il arrive en tremblant devant Dieu, il va en sortir libéré. Ce qu'il va découvrir va le bouleverser, lui donner une joie incroyable. Cette justice de Dieu qu'il redoutait tant et qu'il se savait incapable d'atteindre. Et même quand il part de ses réussites, Luther, à un moment, il part de ses réussites, il dit « Bon, la convoitise, c'était pas trop compliqué finalement de la museler ». Mais quand il réussissait à museler sa convoitise, il se rendait compte qu'il a retiré une fierté et un orgueil. Et là, il se reculpabilisait de l'orgueil qu'il avait, il s'en sortait jamais. Quoi. Il se rendait compte qu'il n'y avait rien à faire, il ne serait jamais juste devant Dieu. Quoi. Donc cette justice de Dieu qui redoutait tant, qui se savait incapable d'atteindre, eh bien, Dieu se proposait de lui accorder par la foi en Jésus-Christ, en son œuvre à la croix. En fait, le message, c'est que Dieu donne sa justice gratuitement à celui qui croit. Écoutez ce que dit Luther dans une lettre en avril 1516, dont il vient de découvrir ça il n'y a pas longtemps, je ne sais pas à qui il a adressé la lettre. Écoutez le conseil qu'il donne à la personne qui reçoit la lettre. « Apprends à connaître le Christ et le Christ crucifié. Apprends à chanter sa louange, à désespérer de toi-même et à dire « Toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, mais moi je suis ton péché. Tu as assumé ce qui est à moi et tu m'as donné ce que je n'avais pas. » Voilà comment Luther comprenait la justification par la foi. Donc, Dieu nous déclare juste de la justice de Jésus-Christ. Il prend notre péché à la croix et il nous donne sa justice. En fait, il a vécu justement toute sa vie sans jamais pécher. Il a parfaitement accompli la loi de Dieu et il nous l'accorde. On en reviendra plus tard, ça. Luther parle du joyeux échange de l'Évangile. Donc Dieu ne nous rend pas juste dans la justification, il nous déclare juste. Donc ça ne dépend plus de nous, c'est ça le plus important. Ça dépend de ce que Jésus-Christ a fait. Donc revenons à Romains. Eh, ouais. Donc si dans l'évangile, Dieu accorde sa justice, ce qu'a découvert Luther en lisant Romains, sans l'évangile, par contre, l'homme est sous la juste colère de Dieu. Alors rappelez-vous, la colère de Dieu, il faut sortir de notre compréhension de la colère. C'est pas Dieu qui est en train de perdre contrôle, perdre maîtrise et qui s'énerve, comme nous, des fois, on peut s'énerver. Hein. C'est la juste, sa juste manifestation contre le péché. C'est sa juste manière de combattre l'injustice. En Romains 1, 18, Paul commence son développement sur la condition de pécheurs des êtres humains, leur état d'injustice par la colère de Dieu contre l'idolâtrie. On va lire Romains 1, 18. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde et les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Et puis on pourrait continuer comme ça jusqu'au verset 30, on ne va pas tout lire. Jésus, en parlant du plus grand commandement, dit, je fais un parallèle avec Jésus là, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et celui qui est égal est ton prochain comme toi-même. » Donc le fait de ne pas adorer Dieu, de ne pas le mettre à sa juste place, mais d'adorer ce qu'il a créé à la place d'adorer le Créateur, c'est l'idolâtrie, c'est le péché contre Dieu. Et puis si on continuait le passage du péché contre Dieu, on passe au péché contre les autres. En fait, tous les péchés sont contre Dieu. Hein. Même quand on pêche contre quelqu'un, on pêche aussi contre Dieu. C'est pour ça que Dieu, en fait, c'est le péché, c'est quelque chose de personnel entre nous et Dieu. C'est relationnel entre nous et Dieu. C'est pour ça que sa colère se révèle contre les pécheurs. Et la justification va devenir quelque chose de personnel aussi. Cette relation personnelle va être réglée. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. On va relire le verset 20, juste. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, n'ont donc aucune excuse. Et puis on va lire le verset 32. À la fin, ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Donc ces deux versets pour montrer qu'on est sans excuse devant Dieu. Là, il parlait plus du monde païen. Si on continue dans l'Épître, dans cette grande section du verset 18 à 3:20, il va tour à tour montrer que les non-juifs, donc les païens, et les juifs sont tous coupables devant Dieu. Par exemple, si on lisait les versets, on va lire les versets 12 à 16 du chapitre 2, on ne va pas lire tout, hein, mais on lit des petits bouts. « C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu la connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. » Mais ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi se considéreront comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Donc on voit que tous, on va tous être inexcusables devant Dieu si on ne se présente pas devant Dieu avec la justice de Jésus-Christ. Après, il y a les Juifs. Du verset 17 au verset jusqu'à la fin du chapitre du chapitre 2, qui sont déclarés coupables devant Dieu. On va juste lire le verset 23. Tu es fier de posséder la loi, donc là il s'adresse aux Juifs, mais tu déshonores Dieu en désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, le Juif, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. On pourrait continuer. Donc si on repense au sermon sur la montagne et à la lecture que fait Jésus de la loi, de ce que c'est que la vraie obéissance au cœur de la loi, on se rend compte que quelqu'un qui a de la haine ou quelqu'un qui a envie d'insulter, soit que ça sort, soit que ça reste dans son cœur, pour Jésus, ça équivaut la haine et le début de tout meurtre. Okay, tout meurtre a commencé par de la haine. Pareil pour l'adultère. Tout adultère a commencé par une convoitise. Donc Jésus va au cœur de la loi, montrant par là que personne n'obéit réellement à la loi. Et Paul, vers la conclusion de sa démonstration de la culpabilité de tout être humain, juif et non-juif, va dire en Romains 3:9 « Que faut-il donc conclure ? Nous, les juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes ? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables, l'Écriture le dit. » Et là, il va avoir toute une série de citations de l'Ancien Testament où Paul ne va plus être dans la démonstration, où il va laisser parler les Écritures et qui vont nous montrer ce que Dieu dit de la justice de l'homme. On va le lire. Hein. L'Écriture le dit. Donc, tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables, l'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils sont tous corrompus tous ensemble. Il n'y a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions, leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. » Tout ça, il cite plein de versets de l'Ancien Testament pour montrer comment Dieu voit l'être humain en général. Alors peut-être qu'on ne se reconnaissait pas dans tout, hein, mais il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme de comprendre, pas un qui cherche Dieu, on est tous égarés. Voilà, et puis pour le reste, on peut revenir à ce que je disais tout à l'heure, au cœur de la loi. Et il en vient donc à la conclusion. La conclusion suivante vient. Or, versets 19 et 20, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. En fait, Dieu enferme toute l'humanité dans la désobéissance. Juifs et non-juifs sont coupables devant lui. Donc, ce qui équivaut à dire aussi que tous les hommes sont égaux devant lui, tous pécheurs, tous incapables d'accomplir la loi pour être déclarés justes devant Dieu. Donc, verset 20, « Car personne ne sera déclaré juste devant lui » parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Donc on voit que deux moyens d'être justifié apparaissent. En Romains 1:17, on a vu que la justice que Dieu accorde, on a vu la justice que Dieu accorde et qui est reçue par la foi, on l'a à peine effleurée, là on l'a vu dans un verset. Puis là on voit la justice qui vient de l'accomplissement de la loi, et Paul vient de consacrer plus de deux chapitres à démontrer qu'elle est impossible à obtenir, cette justice qui viendrait de l'accomplissement de la loi, à cause de l'état de péché de l'homme. Et je dirais même plus que vouloir l'obtenir est aussi une conséquence du péché. C'est une recherche d'indépendance par rapport à Dieu. Le légalisme est une forme de recherche d'indépendance par rapport à Dieu. C'est comme dire à Dieu, « J'ai pas besoin que tu me sauves, j'y arriverai tout seul. » Et la personne qui vit là-dedans est autant perdue que la personne qui dit, « Je m'en moque de ta volonté. » La personne va prendre qui partir dans des crochets, dans des péché grossier dans de la débauche, elle dirait « je veux rien savoir de ta volonté, de ta loi », et le légaliste dirait « écoute, moi non plus, je veux rien savoir de toi, je veux me débrouiller tout seul ». Et les deux fils de la parabole du père sont autant perdus l'un que l'autre, autant le fils aîné, autant le fils cadet qui est parti garder les porcs et en fréquentant les prostituées, que le fils aîné qui finalement essaye de gagner l'approbation du père. Les deux sont perdus de manière différente, les deux restent indépendants de Dieu et ne vivent pas de ce que Dieu accorde. Et la suite de l'Épître, on arrive au verset 21, à Romains 3, 21, là il y a un grand « mais ». Un de ces mets qui renverse tout, un mets des bonnes nouvelles qui arrive après la condamnation. On va le lire. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste. Le maintenant, alors, ça peut être vu sous un angle chronologique. Vous vous rappelez ce qu'on a lu de Pierre au début, justement, là, que ce salut que les prophètes scrutaient, il était pour nous. Donc maintenant, dans un ordre chronologique, la venue et le sacrifice de Jésus-Christ qui ont mis fin au régime de la loi que Jésus-Christ a accompli. Il peut être vu aussi sous un angle logique, les deux peuvent se compléter, puisque personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, verset 20, si quelqu'un est déclaré juste par Dieu, ce sera forcément d'une autre manière que par l'accomplissement de la loi, hein. On va lire la section du chapitre 3, du verset 21 à 30. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste, sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs ? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont déclarées sur cette justice. Elle est donc sans la loi, verset 21. Elle est pour tous ceux qui croient, au verset 22. Elle est par la foi en Jésus-Christ, évidemment, au verset 22 encore. Elle est par sa grâce, au verset 24. Elle est gratuite, ou un don que Dieu fait, au verset 24, selon les versions. Si on allait au chapitre 5, verset 9, on verrait qu'elle est par son sang ou par son sacrifice. Donc maintenant, puisque nous sommes déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, ou certains ont par son sang versé, enfin ça dépend des versions. Je vais revenir sur quelques détails. Par la foi en Jésus-Christ. Alors ce qui est le plus important là-dedans, c'est en Jésus-Christ. La foi a pour objet la personne et l'œuvre de Jésus. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue dans une prédication. Celle d'un homme. Imaginons qu'un homme s'en va sur une glace qui fait 3 cm. Et puis, il a une foi très intense. Il est persuadé, sûr de lui, il n'y a pas de raison, la glace ne va pas craquer. Il y va, il est très très sûr de lui. La glace fait 3 cm, et bien elle va craquer. Quelle que soit l'intensité de sa confiance dans la glace. Ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est la solidité de la glace. À l'inverse, si quelqu'un s'avance sur une couche de glace de 10 cm, même s'il y va un petit peu tremblant et pas sûr de lui, la glace va tenir. Quelle que soit l'intensité de sa foi. Ce n'est pas le vrai problème, hein. Le problème, c'est la glace, sa solidité. C'est pas l'intensité de sa foi. Et ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Qui il est, ce qu'il a fait pour nous, c'est pas l'intensité de notre foi. Ça va rien changer. Okay, c'est pour ça que Jésus peut dire, si vous aviez de la foi comme une moutarde, comme un grain de moutarde, qui est la plus petite. Alors, revenons à ce passage, hein, de Romains 3, 21, donc 21 à 30. Paul nous rappelle à nouveau qu'on est tous pécheurs. Alors, il a mis une couche, Paul, hein. Mais comment on peut faire grâce à des gens qui ne sont pas coupables ? Si vous présentez au tribunal et que vous êtes persuadé d'être innocent, et que c'est vrai, imaginons quelqu'un qui est innocent, et puis qui se voit, puis à la fin la justice en a marre, et puis la justice le gracie. Ben, la personne va dire, mais pourquoi je suis gracié ? Moi je voulais être innocenté. Tandis que si on vous déclare coupable et gracié, c'est-à-dire vous étiez coupable, mais on vous a déclaré, c'est une déclaration de justice, vous avez été gracié, c'est ce qui s'est passé, on a été déclaré juste. Donc c'est un don offert grâce à ce qu'a fait Jésus-Christ sur la croix. Au verset 25, on va relire le verset 25, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier nos péchés. Certaines versions ont une victime propitiatoire. Ça veut dire que ça, la colère de Dieu est tombée sur Jésus et Dieu nous est propice, il nous est favorable maintenant. On n'a rien à craindre de Dieu, il nous est favorable. Destiné à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice, ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Je continue, excusez-moi. Sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Donc, en mourant sur la croix, on voit que Jésus-Christ a pris les péchés de tous les croyants, de tous les temps. Ils ont vécu par la foi à leur époque, et c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui les sauve. Les sacrifices d'animaux n'étaient qu'une anticipation. Et ils ont été faits dans la foi que Dieu allait pourvoir un moyen de pardon plus tard. Le sacrifice de Jésus il nous montre aussi son amour pour nous. Jésus s'est donné pour nous. L'amour du Père pour nous, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il montre aussi sa justice. À la croix, il y a à la fois la justice de Dieu et l'amour de Dieu qui se rencontrent. Le péché ne pouvait pas être mis sous le tapis. Dieu montre son sacrifice par le sacrifice de Jésus. La loi exige la mort du coupable, la mort du pécheur, et Jésus va accomplir cela, il va prendre la sentence et nous rendre Dieu favorable. Nous sommes quittes de la peine que la loi exigeait. On ne doit plus rien à la loi et on ne doit plus rien au péché. Donc la sentence qu'exigeait la loi est accomplie, la justice de Dieu est rencontrée, nous sommes déclarés justes et Dieu reste juste car notre péché a été porté par Jésus.
Pose une question,
oui.
Puisque je sais que tu étudies Philippiens en ce moment, là. Lorsque l'apôtre Paul se présente comme irréprochable quant à la justice de la loi, comment tu as-tu un commentaire par rapport à ça?
Je pense qu'il présente à ce moment-là son curriculum vitae de juif. Qui était de la tribu de Benjamin, qui avait été circoncis au 8e jour, dont tout avait été fait en règle. Extérieurement, il obéissait totalement à la loi. Mais en même temps, il dit qu'il cherche, dans ce même passage de Philippiens 3, à être trouvé juste, non pas d'une justice qui produirait, mais de la justice que Jésus-Christ lui accorde.
Parce que dans ce passage, après, il dit « Je considère tout cela, donc son expérience
de juif,
la loi, ouais. Comme de la boue, etc.
Oui. »
Voilà. Et là, il se met sur l'expérience humaine et non pas sur une déclaration de Dieu.
Oui.
C'est lui-même qui considère cela comme de la boue.
Ouais.
C'est quand même spécial.
C'est vrai. Il considère tout ça de la boue afin de trouver Jésus-Christ finalement. Il a trouvé la perle de grand prix qui fait qu'il trouve plus son identité dans son curriculum de juif religieux, mais il la trouve en ce que Jésus-Christ a fait pour lui, quoi. Donc je le vois un peu comme ça. Voilà. On va relire le verset 28 jusqu'à 30. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Donc s'il n'y a qu'un seul Dieu pour tous, il n'y a aussi qu'un seul moyen de justification. Tous les hommes sont enfermés dans le péché et tous sont justifiés. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont justifiés par la foi, par un seul Dieu, quoi. Donc, notre péché est pardonné, je crois que ça c'est clairement dit. Et ça, c'est le côté ardoise négative effacée. Mais on n'est pas seulement pardonné, on n'est pas seulement quitte du péché, mais on est aussi juste. Il y a bien plus. La justice de Christ, bien plus que le pardon de notre péché. La justice de Christ est mise à notre compte. Lorsque Dieu nous voit en Jésus-Christ, il ne voit pas seulement des pardonnés, mais des enfants pleinement acceptés, juste de la justice de Jésus-Christ. Okay. Là, on ne parle que de la justification ce matin. On aurait pu un peu parler de l'adoption, je ne l'ai pas fait, mais ça, c'est aussi un fruit de la foi. La justification et l'adoption font partie du kit de la foi. C'est une réponse de Dieu à notre foi. Un prisonnier qui sort de prison, il est quitte de sa peine, maintenant il va peut-être ramer dans la société pour avoir affaire à ses preuves. Nous sommes quittes de notre péché, nous sommes pleinement acceptés devant Dieu. On peut se présenter devant Dieu la tête haute à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Luther prenait l'image d'une jeune paysanne endettée qui rencontrait un prince riche. Quand le prince se mariait avec la jeune paysanne, sa dette était effacée, mais la jeune paysanne bénéficiait de toutes les richesses du prince aussi. Il y avait un transfert de compte. Le négatif effacé, le positif mis. Ça, ça parle à Irène, le transfert de compte. Voilà. Éphésiens nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ. On va lire Romains 5, versets 18 et 19. Pardon. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu, par l'obéissance de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est juste? Je pose une question rhétorique un peu. Hein. A-t-il péché une seule fois dans sa vie? Les évangiles nous témoignent du contraire. Et ses plus farouches adversaires, lors de son procès, n'ont rien pu trouver à lui reprocher. Et l'évangile de Matthieu, en 26-59, nous dit que le chef des grands prêtres et le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le faire condamner à mort. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont rangés autrement. Mais il a été impossible de trouver un faux témoignage. Il a quitté le ciel pour nous. Il a parfaitement obéi à son Père durant toute sa vie. Il a parfaitement aimé ses prochains comme lui-même. Il a accompli la loi en mourant sur la croix, c'est-à-dire qu'il a pris la peine que méritait notre péché, la mort, c'est ce que réclamait la loi. Il a aussi parfaitement accompli la loi morale. Sa vie a été parfaite devant Dieu, sans péché. La loi cérémonielle, il est le plein accomplissement de tout ce que préfiguraient les cérémonies et les rites de la loi, toutes les lois d'impureté, tout ça. Que mérite Jésus donc ? Que mérite Jésus ? Là, on revient au principe de mérite qui est applicable pour lui. Ben, la pleine et totale approbation de Dieu, sa pleine acceptation. Il est le seul juste et c'est de cette justice que nous sommes revêtus. Jésus-Christ est mort à notre place. Et il a aussi vécu, il n'est pas seulement mort à notre place pour nos péchés, il a aussi vécu à notre place la vie d'obéissance que nous ne pouvons vivre. Et il nous fait bénéficier de sa vie d'obéissance. Nous sommes juste de sa justice. Il a parfaitement accompli la loi pour nous à notre place. Donc nous n'avons rien à faire pour être acceptés par Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, Dieu nous traite comme Jésus-Christ le mérite. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue de Tim Keller. Lorsque nous croyons en Jésus, Dieu nous traite comme Jésus-Christ le mérite. C'est incroyable. On va lire deux versets qui en parlent, deux passages. C'est dans Galates. Donc Galates, c'est l'autre épître de la justification par la foi. Où là, Paul va plus montrer qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'être vraiment... Il va vraiment montrer ça. Il va montrer que croire le contraire, c'est quitter l'évangile. Et regardez ce qu'il dit à un moment dans Galates 3, verset... Ah, je me trompe là. Galates 3, verset 13 et 14. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est écrit en effet « Maudit est quiconque est perdu au gibet ». Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs, que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Et 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un a d'autres versions que la mienne? Elle ne me plaît pas trop, là. En 2.21.
De Galates?
Oui, non, de 2 Corinthiens 5, 21.
Celui qui n'a point connu le péché, c'est ça.
Oui.
Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Voilà. Celui qui n'avait point péché, il l'a fait devenir péché en nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus est devenu un pécheur au moment de la croix, mais qu'il a été traité légalement comme s'il avait péché. Et ça ne veut pas dire que nous devenons justes dans nos comportements, mais que nous sommes traités légalement de la justice de Jésus-Christ. Ok, c'est un transfert. C'est pas Jésus-Christ, n'est pas devenu péché. Il a été traité comme un pécheur. Il a été fait péché pour nous et nous sommes justice en lui. Et pareil pour dans Galates, ma version, la semeur, ils expliquent trop presque, je trouve. Il va passer dans l'original là, mais il a été fait malédiction pour nous. C'est la même chose. Il a pris la malédiction pour que. Hein, vous, c'est le même principe. Lui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché. Voilà. Hein. Légalement, il est devenu mon péché. Il est devenu le David. Il est devenu David adultère. Il est devenu. Puis on peut mettre notre nom et tous les péchés qu'on veut dedans. Il est devenu. Vous mettez votre nom et vous mettez le péché que vous voulez à notre place. Et Jésus a été traité donc comme nous le méritions et nous sommes traités comme lui le mérite. C'est incroyable, hein? Ça, c'est vraiment l'évangile. Alors, voilà le message merveilleux de l'évangile. Alors, dans le dernier chapitre, quelques conséquences que cette doctrine peut avoir sur notre vie si on s'en saisit, si on la médite, hein, comment ça sert-elle dans notre quotidien? Parce que là, des fois, ça peut nous sembler loin, ces histoires de loi, pas loi. Mais on veut tous se justifier devant Dieu, même ceux qui ne veulent pas accomplir la loi, comme la loi mosaïque. On cherche tous à justifier nos vies. Alors, premièrement, je suis libéré de la crainte de la mort, du jugement. Mon futur est assuré grâce à Jésus-Christ. Et cela a des conséquences sur mon présent. Hein. Vous parlez à un malade qui est sans espoir, ou la même personne, ou une autre personne qui a la même maladie et qui est en voie de guérison, même s'ils ont les mêmes symptômes, la même maladie, ça va pas être pareil, quoi. Et encore, là, mon image est un peu faible parce que l'évangile a déjà de l'impact dans le présent, évidemment. Mais le fait qu'il en aura dans le futur aussi a un impact sur le présent. On va lire Romains 5. Où j'en suis là? Romains 5, versets 1 et 2. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Donc nous avons l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu parce que nous sommes justifiés. Et versets 9 et 10, donc puisque nous sommes maintenant toujours dans le même chapitre, déclaré juste grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Pareil, là on voit que on était ennemis de Dieu et nous sommes devenus en paix avec lui. C'est un statut légal là aussi, hein. C'est pas là la paix dont il est parlé est d'abord une paix de réconciliation avec Dieu qui après va donner aussi une paix de fruit de l'esprit, mais c'est d'abord une paix légale. Donc des fois quand nous chantons je suis l'ami de Dieu, ça s'adresse à des gens qui sont réconciliés avec Dieu, hein. On peut pas le et nous trouvons notre fierté en Jésus-Christ, donc pas dans nos richesses, pas dans une célébrité ou dans je ne sais pas quoi, parce que tout cela ne passera pas à la mort. Verset 2, et notre fierté se fonde l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Alors même si personne d'entre nous est célèbre, vous voyez ce que je veux dire, on a tous nos fiertés, ce qui crée notre identité. Et bien la justice par la foi veut nous libérer de ces identités, veut nous libérer. Moi je me présente à quelqu'un, je vais dire qui je suis. Ben, si je suis d'un pays étranger, je dis ben, je viens de France. Si quelqu'un je ne connais pas, ben, oui je suis marié. Si on me demande mon métier, ça fait partie de notre identité. Mais ce ne doit pas être nos identités premières. Si un jour tout cela va finir, et si un jour je ne peux plus travailler parce que j'ai des soucis de santé, est-ce que je trouve mon identité que là-dedans, ou est-ce que je trouve mon identité dans ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Et c'est là où ça peut être vraiment libérateur. Donc, Jésus-Christ a mort. Voilà, non, ça je l'ai déjà lu, je me trompe de page, excusez-moi. Maintenant aussi, Romains 8, 1, très connu ce verset. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui ont en Jésus-Christ. Donc c'est maintenant que ça a un impact, dans le présent, même si dans le futur, on l'a vu, on paraîtra devant Dieu juste, maintenant, il n'y a plus de condamnation sur un Jésus-Christ. Et quand on arrive à la fin du chapitre, au verset 30, « Ceux qu'il a ainsi dessinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » Que dire de plus, la conclusion, quand l'apôtre Paul continue. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il a le droit de vivre, d'intercéder pour nous. Donc là, on voit qu'il y a un vocabulaire de tribunal. Dieu nous a déclarés justes et rien de cela ne pourra l'enlever, même pas la mort. Et toutes les épreuves qu'il écrit après, c'est compris dans ce contexte que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu qu'il a manifesté et rien ne pourra nous enlever cette justice que Dieu nous a donnée. Toute accusation de ce monde s'avérera fausse à la fin. C'est Dieu qui va juger, il nous a justifié en Jésus-Christ. Et la justification, l'évangile de la justification amène aussi une joie, une libération. La joie du pardon. Hein. On revient à Romains 4, versets 5 et 6. Là, il va prendre dans Romains 4, il prend l'exemple d'Abraham, de David. Verset 5. Si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi, son crédit. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Je vais vous lire une petite prière, parce que ça c'est cité du psaume 32, et une petite prière suite à une méditation du psaume 32 que fait Tim Keller. Et finissent après, il médite le psaume 32, les premiers versets qu'on a lus, et il dit « Père, peu m'importe l'ampleur de mes péchés, il en existe un supplémentaire et non des moindres, le refus de trouver le repos dans ta grâce et d'accepter ton pardon. Accorde-moi le bonheur et la libération que procure l'assurance d'être au bénéfice d'un pardon complet, absolu et abondant par Jésus. » J'ai trouvé cette prière formidable, c'est pour ça que je vous la lis. Ouais. Donc laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit de cette vérité. Jésus-Christ a payé notre dette, il nous a revêtus de sa justice. Vivons par la foi. Et à l'inverse, par contre, si tout nous est pesant, sans joie, et peut-être devons-nous demander à Dieu qu'il nous révèle à nouveau son évangile, qu'il nous rafraîchisse à nouveau de son évangile. Enfin, l'évangile de la justification par la foi nous libère de la performance. On n'a pas à s'accomplir, Jésus-Christ a tout accompli pour nous à notre place. On n'a pas essayé de gagner la faveur de Dieu, mais puisqu'il nous a acquis cette faveur, qu'il nous a acquis sa justice, nous pouvons œuvrer d'une manière libérée, sans craindre l'échec non plus. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, mais si on se trompe, eh bien, on a un rédempteur. On ne doit pas avancer. Hein. Et cela ne concerne pas que les chrétiens. Hein, parce que dans notre manière d'annoncer l'évangile aussi, on peut trouver des portes d'entrée là-dedans. Parce que tout le monde essaie de trouver un sens à sa vie. Il y en a qui vont le trouver dans le travail, un homme d'affaires, peut-être un manqué. Il y en a qui vont le trouver dans leur famille. Quelqu'un qui a mis tout son espoir dans sa famille, qui a essayé de bien élever ses enfants, qui a essayé de... Et puis d'un coup, ça s'écroule pour une raison ou une autre. Les enfants partent en vrille, il y a une séparation. C'était ceux qui justifiaient sa vie. Il y a des fois des secrets de famille qui sont cachés parce qu'on veut montrer bonne figure. Il y a une forme de justification. La justification, ce n'est pas qu'en essayant d'obéir à la loi de Moïse. On essaie tous d'être juste devant Dieu et devant les autres. Ouais. Il y en a, ça va être par leur talent artistique. En fait, on essaie toujours de produire quelque chose dans notre vie. Et là aussi, la justification par la foi répond d'une manière incroyable. On va lire quelques versets là, pour voir où c'est qu'on peut placer notre fierté. Non pas en nous, mais en Jésus-Christ. Et c'est vraiment reposant. On va lire Romains 3, verset 27. Alors, il vient de citer quelques versets sur la justification. Juste avant, il dit que Dieu permet d'être juste tout en écartant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. C'est un sacré antidote à l'orgueil. Hein. 1 Corinthiens 1, versets 28 à 30. Les Corinthiens se sentaient peut-être pour certains mal placés dans la société. Verset 28, chapitre 1. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ. qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. On a tous de la fierté. Il vaut mieux, hein, quelqu'un qui n'en a pas du tout, il va peut-être finir dépressif ou suicidaire. Mais on place tous en fierté de quelque chose dans notre vie. La Bible ne nous encourage pas à ne pas avoir, à en avoir aucune fierté, mais à la placer au bon endroit. C'est un excellent remède donc, contre l'orgueil, contre l'égoïsme. On n'a pas besoin de toujours se mettre en avant, puisque Dieu s'est tellement bien occupé de nous. Je trouve que c'est bien plus efficace que les conseils de la psychothérapie moderne qui nous ordonnent d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, qui nous, comme une méthode de couée. Hein? Car cette estime de nous-mêmes va venir de ce que Jésus a fait pour nous. Je peux me savoir un pécheur perdu, mais racheté par Jésus, déclaré juste par Dieu. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être parfait. C'est aussi efficace contre l'orgueil. Ça l'est donc aussi contre le mépris social, contre toute forme de mépris, en fait, se croire supérieur à quelqu'un d'autre. En Jésus-Christ, dans l'Église, on peut avoir communion avec des personnes qui sont de milieux très différents. Ça va trouver aussi de quoi combattre le racisme, normalement. Hein? Parce qu'on est tous des pécheurs justifiés, et je n'ai pas besoin de mépriser plus ou moins inconsciemment ce qui se passe des fois dans le racisme d'une autre culture ou un autre milieu, parce que je ne tire pas ma fierté de ma culture, de mon pays, de ma famille, mais de ce que Jésus a fait pour moi. Ma première identité, c'est chrétien. Ce n'est pas français, ce n'est pas de telle culture, ce n'est pas de telle famille. C'est chrétien d'abord. Hein? Voilà quelques pistes de l'impact que peut avoir la justification par la foi sur notre vie. Il y en a sûrement d'autres. Voilà. La prochaine fois, nous verrons la sanctification, comment on passe de cette justice légale à une vie plus juste. Mais la base, c'est pour ça que dans les épîtres, dans l'épître de Paul, la justification par la foi vient avant la justification, avant la sanctification, d'accord ? Du coup, on ne va pas essayer de produire une sanctification pour gagner la justice de Dieu sur l'approbation, c'est fait. Donc on peut se réjouir, nous sommes acquittés, nous sommes justes de la justice de Jésus-Christ. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point ses péchés. Amen.